Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu jusqu'à Royères pour cette interview.
Avec plaisir.
Est-ce que vous pouvez raconter à nos auditeurs et nos auditrices qui vous êtes ?
Alors moi c'est Archibald. Comment je me retrouve ici ? J'ai longtemps vécu dans de multiples projets collectifs, plus ou moins autogérés, en ville et à la campagne, notamment sur le plateau de Mille Vaches. Et ces collectifs, aussi merveilleux soient-ils, n'ont pas cessé de traverser des crises de tout ordre, relationnelles, des explosions, des violences, desquelles on s'en sortait plus ou moins. Et pendant toutes ces années, je n'ai pas cessé de chercher des outils et des moyens de travailler le conflit, penser ensemble et avancer sur tout ça. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, j'ai eu le sentiment qu'on ne s'en sortait pas uniquement dans l'entre-soi du collectif, et que je me suis formé à la socianalyse via l'association Pivoine, et qui est donc un dispositif d'intervention dans des organisations ou des collectifs en crise, et dans ce réseau de socianalystes dont on va parler plus tard, j'ai participé à une formation sur l'entretien non directif, ce qui nous a conduit à faire une série d'entretiens non directifs en posant la question « Qu'est-ce qui, dans ton vécu, entame la vitalité des aventures collectives ?» Et ça aboutit à une vingtaine d'entretiens suite à quoi on a fini par écrire un bouquin qui s'appelle « Comment faire collectif ?»
Eh ben merci beaucoup. On a déjà beaucoup de mots-clés. Ayala, est-ce que tu veux bien te présenter pour qu'on revienne sur ces mots-clés après ?
Oui, bonjour. Du coup, moi, c'est Ayala. Ça fait plusieurs années que je fais partie de l'équipe de Pivoine. Et c'est aussi via Pivoine que j'ai découvert cette méthode d'intervention qui s'appelle la socianalyse. Et c'est du coup en participant à des temps d'échange, de formation, d'apprentissage avec d'autres personnes qui sont aussi formées ou qui se forment à ce dispositif d'intervention que j'en suis arrivée comme Archibald à travailler sur cette enquête et à aller jusqu'au bout de la volonté de transmettre des éléments qu'on avait appris dans cette enquête et qui nous paraissaient intéressants pour d'autres que nous. Et donc, on a ensemble, avec deux autres personnes, Magali Arnoux et Christiane Gillon, on a poussé jusqu'à l'écriture, le peaufinage, l'organisation et la publication d'un livre qui vient de sortir là au printemps dernier.
Alors j'ai l'impression que pour parler de ce livre, il y a déjà plein de petites bases à poser. Est-ce qu'on peut commencer peut-être par qu'est-ce que c'est la socianalyse ? Comme ça, on aura peut-être un bon point de départ.
Je commence. La socianalyse, c'est ce qu'on appelle un dispositif d'intervention, c'est-à-dire que c'est une sorte de support pour faire avec des intervenants et une organisation qui fait appel à ses intervenants, une sorte d'analyse collective de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va mal, comment on comprend la situation difficile et comment chacun se raconte l'organisation et ce qu'elle traverse, ses difficultés, pour essayer ensemble, avec donc l'aide des intervenants, mais surtout à la manœuvre, c'est les personnes qui sont impliquées dans l'organisation, qui la connaissent, qui participent, etc., pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et quels seraient les leviers pour faire changer les situations qui ne nous conviennent pas, qui nous mettent en difficulté ou qui nous font souffrir ou qui ne tiennent plus, quoi, qui sont de l'ordre du passé, des persistances du passé, par exemple, mais qui restent encore agissante et on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, donc du coup, ça consiste en constituer une équipe d'intervenants qui sont formés, qui sont 3, 4, 5 en fonction de la taille du collectif et qui vont se déplacer pour aller travailler. Alors ça s'organise de différentes façons, mais en général, c'est quand même plusieurs jours consécutifs pour mettre sur la table un peu les différents sujets, les différents questionnements, comment chacun vit les choses, de quoi il faudrait parler, et élaborer ensemble une suite, une manière de travailler ensemble ces sujets.
Je vais juste ajouter, par rapport à ce qu'a dit Ayala, Donc, le plus souvent, ça se fait sous un format de 3 à 5 jours très intense. Et une des bases et une des caractéristiques de cette méthode d'intervention, c'est qu'on travaille en assemblée. Donc, ça crée des configurations qui sont souvent inhabituelles pour les collectifs ou organisations. Juste pour donner une image, c'est qu'on va rassembler toutes les personnes qui sont concernées, qui ont un savoir ou un pouvoir sur une situation. Par exemple, si on intervenait dans une école, on pourrait convoquer autant le personnel enseignant que la direction, le personnel administratif, les personnes qui font le ménage, éventuellement les enfants, les parents. Donc ça permet de socialiser des savoirs que les gens, que chaque personne isolée n'avait pas. Et ce partage approfondi pendant plusieurs jours va permettre que de sortir de situations qui souvent paraissaient au départ complètement bloquées.
Voilà. Cette formation dans laquelle dont tu parlais, ça ressemble à quoi qu'est-ce qu'on apprend en fait du coup?
Alors pour ça, il faut que depuis quelques années, la socianalyse, c'est aussi une pratique qui est née dans les années 60, aussi un peu dans les idéaux d'émancipation de 68, qui a perdu en succès, qui a été un peu invisibilisé pendant les années 80. On peut le comprendre comme c'est des années d'approche individuelle des problèmes, alors que c'était une approche, la socianalyse est une approche collective des problèmes. Et là, depuis une bonne dizaine d'années, il y a un renouveau de la socianalyse, beaucoup dans des milieux issus d'éducation populaire. Donc c'est une pratique qui se réinvente aujourd'hui. Elle se réinvente dans un réseau de socialistes, on a, disons, une trentaine de membres assez actifs, beaucoup plus si on compte les inactifs. Et en fait, comme c'est très confrontant d'avoir à mener ce type d'intervention, on s'auto-forme en permanence. On a besoin de supervision, de retour réflexif sur nos pratiques, et notamment, là c'était une formation à l'entretien non directif, puisque c'est une pratique d'écoute, c'est essentiel d'affiner différents types d'écoute. Et sauf que là, on s'est saisi de cet objectif de formation pour mener un travail sur une question qui nous passionne, qui nous passionnait tous, à savoir comment faire pour construire, encore un mot-clé, une culture des précédents, pour que les collectifs, on est beaucoup à déplorer le manque de savoir-vivre, de savoir-faire pour que les collectifs apprennent de leurs erreurs. Et donc on a voulu aller questionner. Donc on s'est saisi de l'objectif pédagogique de cette formation pour aller questionner une vingtaine de personnes sur leur expérience et apprendre de leurs erreurs. C'était ça l'objectif. Et sauf qu'au bout d'un moment, l'objectif pédagogique a été dépassé par la qualité des entretiens qu'on avait. On s'est retrouvé avec plus de 1000 pages extrêmement riches d'expériences foisonnantes allant de squats urbains à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, des hôpitaux psychiatriques, des lycées autogérés, un village, une mairie, des petites associations de soins, un GAEC, qui chacun racontait une forme d'expertise sur le vécu qu'ils avaient. Et suite à ça, donc on a prolongé la formation encore et encore, plusieurs semaines, pour pouvoir travailler cette matière. Et lentement, lentement, on a abouti à faire une restitution aux interviewés, et puis on s'est dit, en fait, cette matière est assez riche pour en faire un bouquin.
Et donc, ce bouquin, vous êtes quatre à l'écrire, à le signer en tout cas. Est-ce que vous voulez bien parler un peu des deux autres personnes qui ne sont pas là pour le présenter?
Oui, donc avec nous deux, il y avait Magali Arnoux et Christiane Gillon. Christiane Gillon, c'était notre prof de la formation et qui était aussi la personne qui nous a transmis le dispositif de la socianalyse avec Patrice Ville, son compagnon et co-intervenant depuis, je n'oserais pas dire toujours, mais presque. Et en tout cas, donc elle a animé cette formation qu'on a suivie à l'entretien non directif et à l'analyse du contenu de ces entretiens. Et elle a aussi soutenu le fait que la matière qu'on avait lui semblait intéressante. Et enfin, disons qu'elle, je ne sais pas si elle nous a poussé, mais en tout cas, elle a... elle a tenu bon sur le fait que c'était intéressant, même avec le statut de résultat d'élève en formation, de pouvoir partager ce qu'on avait appris. Et voilà. Et Magali Arnoux, c'est une personne comme nous qui fait partie du réseau des socianalystes, qui s'est formée comme nous et qui avait, avec Christiane et d'autres, déjà écrit un article dans une revue, la nouvelle revue de psychosociologie, je pense que ça s'appelle, sur justement ce dont parlait Archibald, c'est-à-dire un peu ce renouveau autour de l'utilisation de la socianalyse. Donc elle était aussi très attirée par le fait de pouvoir transmettre, écrire, produire de la référence sur le dispositif qu'on utilise et sur ce qu'on apprend en travaillant auprès de collectifs.
Et donc ce livre, il s'appelle « Comment faire collectif », c'est ça ?
Ouais, c'est ça, il s'appelle « Comment faire collectif ». C'était pas son titre au tout début, mais c'est le titre le plus explicite qu'on a trouvé avec l'éditeur. Parce que l'idée, c'était pas tellement de proposer un livre de recettes, mais c'était quand même de transmettre ce qui nous semble être des éléments pour constituer cette culture des précédents. Donc du coup, quand même des éléments d'expertise de collectif sur leur propre vécu, leur analyse de ce qu'ils ont vécu et de qui pouvait être utile à d'autres. Et donc c'est en ce sens qu'on a opté pour ce titre.
Oui, c'est la question en tant que question. On n'apporte pas on va pas répondre à comment faire collectif et donner des solutions. Et c'est vraiment cette démarche d'enquête et de questionnement qui est, je crois, une des voies de progrès pour le savoir-vivre en collectif.
Et si je peux ajouter quelque chose, c'est vrai qu'on s'est dit, en fait, ça nous a pas mal occupé comme question, mais ce qui est intéressant, c'est de garder les questions vivantes. C'est-à-dire, en effet, c'est pas de donner des réponses, mais c'est plutôt de faire en sorte que le questionnement continue d'exister. Et donc c'est en ce sens-là où on trouvait intéressant de partager ce que nous, on avait compris de ce qui nous avait été transmis, mais dans l'idée quasiment de faire une collection, c'est-à-dire de pouvoir initier le fait que des textes sortent sur ce qu'on apprend des interventions, ce qu'on apprend de comment faire collectif à tel ou tel endroit, et de tout ce qui pourrait changer, évoluer, être des nouveaux éléments qui pourraient être apportés. Et donc, c'était pas du tout de figer quelque chose sur on a compris, pour faire collectif, c'est ça, ça, ça. C'est plutôt l'inverse, quoi. Et voilà, et donc ça a été aussi un élément qui, quand on a convenu que c'était bien ça notre démarche, qui nous a aidé aussi à aller jusqu'au bout de la publication, puisqu'au début, c'est vrai que l'idée de figer, c'était pas évident, parce qu'on se dit, bah oui, mais on n'a pas interviewé tout un tas de gens et de collectifs qui fonctionnent de façon totalement différente, donc c'est très partial, donc comment on se rapporte à ce contenu. Et donc là, ce qui nous a permis de dépasser ça, c'était vraiment de se dire, oui, tout ça est vrai, mais ce qui est intéressant, c'est de, justement, pour que cette question reste en d'actualité et en débat, de pouvoir à l'alimenter avec ce que déjà on apprend et ce qui est déjà arrivé jusqu'à nous, et c'est pas un point final à la fin du livre.
Tu parles d'arriver jusqu'à la publication. Est-ce que vous avez pu mettre en place des outils que vous avez appris en faisant le livre dans votre collectif d'auteurs, par exemple, et d'autrices ? Ou est-ce que vous fonctionniez déjà très bien à quatre, parfaitement ?
Alors, justement, on est, y a peut-être même une méfiance vis-à-vis de l'idée d'outils. D'ailleurs, quand on part en socio-analyse, en intervention, très souvent, la première chose, c'est les gens, on veut des outils, on a besoin des outils pour travailler les conflits. Et en fait, les outils, souvent, il y a un peu cette idée de prêt à appliquer. C'est quelque chose qui permet d'éviter l'inquiétude et la difficulté du conflit lui-même. Donc, on est plutôt très précautionneux vis-à-vis des outils et des modèles. Et plutôt, on essaie de voir comment les choses peuvent s'inventer en situation. Comment les gens vont inventer des solutions qui leur correspondent, plutôt que des outils qui soient applicables tels quels. Néanmoins, donc l'ouvrage, il est divisé en deux parties. Une partie, c'est vraiment la restitution de l'enquête. Qu'est-ce qu'on a appris en allant questionner les gens et en travaillant les entretiens. Et le deuxième côté, c'est comment on... c'est notre méthode d'enquête. Comment on a fait. Donc, on raconte toute notre histoire, toutes les difficultés qu'on a rencontrées, les moments où on est complètement perdu. On se dit, mais on ne peut rien faire avec cette matière. Elle est très riche, mais ça part dans tous les sens. Comment unifier tout ça. Et comment, finalement, à force de la travailler, il y a des compréhensions qui s'opèrent. Donc là, on décrit vraiment la méthode qui permet aussi de travailler, de traverser cet inconfort d'une matière trop riche et qui part dans tous les sens. Donc oui, la deuxième partie du bouquin décrit vraiment un protocole d'enquête, et c'est aussi notre but, c'est que il y a cette vision de l'enquête sociale comme une pratique de transformation sociale. Donc pas seulement pour nous, mais pour d'autres, on peut en allant questionner un tas de gens sur des questions qui nous sont chères et qui sont importantes, on peut non seulement développer un savoir, mais aussi transformer les rapports sociaux.
Et alors, comment est-ce que vous avez fait pour unifier tout ça, au final ? À quoi il ressemble, ce livre ?
Ce qui est apparu dans l'analyse, c'est qu'on pouvait modéliser différents collectifs, différentes raisons pour lesquelles les gens se regroupaient, différentes manières de se rapporter individuellement à ces collectifs, différentes définitions même de qu'est-ce qu'un collectif, en trois écoles, qui étaient assez différentes les unes des autres. Et que ces écoles étaient un peu des pôles qui tiraient dans des directions opposées, comme une sorte de triangle, quoi, disons. Et que à travers les entretiens, il y en avait qui étaient assez caractéristiques de une ou l'autre école. Donc, par exemple, il y a l'école des relations, donc qui est une école où c'est plutôt l'école des relations humaines, où c'est plutôt les liens entre les personnes, la manière dont chacun peut se sentir écouté, entendu et soutenu dans sa participation au collectif. Bon, pour la faire un peu résumée, qui va prédominer. Ensuite, il y a l'école des formes, qui est plutôt sur penser les formes de l'organisation, modifier sans cesse les formes de l'organisation pour que soit toujours adaptée à ce qui est en train de se passer, ce qui est le plus approprié, ce qui est le plus adapté. Donc, c'est vraiment un travail sur l'architecture, l'organisation et les liens et et la circulation du pouvoir entre les différentes personnes et sous-structures qui composent cette organisation. Et puis l'école de la rupture, qui est plutôt une école de la lutte, la résistance, qui va plutôt chercher à s'opposer à de l'existant en pas forcément se posant la question de comment durer dans le temps et comment exister pendant des dizaines d'années, mais plutôt comment percuter et agir aux endroits qui sont les plus stratégiques, disons, chercher une sorte d'efficience à des endroits et des moments donnés, et du coup qui va se déployer autrement que les autres écoles. Et du coup, c'est en lisant les entretiens, en se parlant beaucoup de qu'est-ce qu'on avait compris de ces différents entretiens, qu'est-ce que la personne interviewée voulait vraiment nous dire et comment elle analysait, elle, son propre vécu et comment elle faisait éventuellement des comparaisons entre, parce qu'il y a pas mal de personnes qu'on a interviewées qui étaient dans plusieurs organisations, donc qui faisaient un certain nombre de comparaisons entre différentes situations qu'elles avaient vécues. Et donc... on a du coup bâti cette espèce d'architecture autour de ces trois écoles, trois pôles, tout en convenant assez vite que personne n'était vraiment dans les extrêmes, c'est-à-dire que plutôt les organisations naviguent entre les différents pôles, puisqu'elles sont faites de des composantes de chacun des pôles, mais de plus ou moins développé, et que c'était aussi ça qui faisait la particularité de chacune des organisations.
Peut-être pour donner des exemples, il y avait cette école de la rupture, qu'on a aussi baptisée Pôle du Feu. Ça, c'est plutôt des collectifs type collectif de vie, squat, collectif militant, qui ont vraiment un trait commun très fort qui est l'informalité. Et donc quelque chose d'assez brut et peu élaboré finalement au niveau de penser le rapport à l'inconscient, les formes, le rapport aux émotions, quelque chose de très simple. Et souvent, pour beaucoup de gens, ça a été une première expérience de vie collective. Et après, ce type de collectif qui souvent ont une durée de vie beaucoup plus courte, parce qu'ils sont pas équipés pour durer, on peut dire ça, ils sont, dans un second temps, des gens se sont dirigés vers les deux autres formes de collectif qui vont élaborer, qui ont beaucoup plus un rapport aux formes et qui ont plus pensé peut-être les difficultés auxquelles ils se confrontaient. Donc, il y a l'école des formes, qu'on a aussi baptisé le pôle de la composition. Ça, c'est beaucoup des collectifs assez grands, des grosses structures presque institutionnelles ou contre-institutionnelles, type lycée autogéré, CMEA, clinique psychiatrique, donc parfois plusieurs centaines de personnes, et qui ont vraiment pensé des formes, une multiplicité d'espaces de réunion, avec des modes de parole différents, avec des compositions différentes, des manières d'inclure, des manières de partir, des statuts différents, des rotations. Donc ils ont vraiment une pensée organisationnelle et idéologique très forte. Et le troisième type de collectif, c'est des collectifs souvent de beaucoup plus petite ampleur, donc école de la relation, qui ont beaucoup plus une attention à l'amitié, la relation, la fragilité personnelle, la mise en travail des difficultés penser le conflit comme en fait quelque chose de fécond, quelqu'un qui disait le conflit c'est une chance, quand on a un conflit c'est qu'on a une matière vive à travailler et on va pouvoir en apprendre quelque chose. Voilà. Et donc là c'était beaucoup de collectifs qui avaient une pratique de soins, d'intervention, d'accompagnement, de soutien psychologique. Voilà.
Et donc, pour bien comprendre, ces maisons, vous les envisagez comme des modèles prescriptifs, comme des outils d'analyse, comme des maisons de Poudlard où on fait un test et on se retrouve je suis maison du feu. Comment est-ce que vous utilisez ces maisons ensuite pour articuler votre livre ?
Je pense que ça permet de voir des types d'attention différents, des manières de faire différentes. Alors, je pense que ce n'est pas du tout à appliquer, mais je pense que c'est plutôt une manière d'élargir la compréhension et de... En fait, voilà, dans n'importe quel collectif, il va y avoir des manières de faire, des manières de penser qui vont s'imposer, qui vont devenir dominantes et qui vont peut-être évincer... et avoir un monopole et faire taire les autres. Là, le fait d'avoir vraiment trois manières de faire, trois manières de penser, de vivre, d'agir, qui sont très différentes, ça permet de comprendre à quel point on a besoin de régimes d'attention ou de paroles différentes. Ça permet d'assumer... Je crois que beaucoup de collectifs souffrent de l'entre-soi et peut-être aussi d'une autonomie qui est conçue comme absence de tiers, absence d'autres. Et là, ça permet d'introduire du tiers, de l'altérité dans un collectif. Ça permet, c'est plutôt une, voilà, ça permet une, d'élargir l'attention.
Oui, moi j'ai l'impression que, on n'envisage pas forcément un guide dans le sens où je suis dans le livre, est-ce que je suis page 12 ou est-ce que je suis page 27, mais on voit que ça fonctionne. Enfin, ce qui a fait aussi qu'on a réussi à trouver une logique d'ensemble pour ces entretiens autour de ces trois écoles, c'est qu'on voyait que quand on les rangeait comme ça, avec ces trois pôles assez différents les uns des autres, eh ben ça activait la pensée et les échanges entre nous. Du coup, c'est ça qui a fait qu'on a gardé cette manière de ranger les entretiens et ce qu'on en avait appris, c'est qu'on voyait que c'était ça permettait de se saisir de ce qui était dit d'une manière qui favorisait la compréhension de ce qu'on peut vivre, ce que, enfin, personnellement ou en termes de collectif. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça donne à voir de manière un peu extrême, puisque les pôles sont décrits vraiment dans le sens le plus, un peu radical, quoi. Et donc, ça permet, en lisant le livre et aussi nous, avec le travail qu'on a fait, de se dire, ah oui, enfin, de comprendre en se disant, à tel endroit, c'est ça qui se joue, ou oui, en effet, on ne peut pas vouloir à la fois être totalement dans, par exemple, l'école de la rupture et l'école des relations, puisque chacune de ces écoles induit des manières des régimes d'attention, comme disait Archie, de différents. Donc, si c'est bien ça qu'on veut faire, alors il faut trouver une manière un peu inédite de pouvoir les agencer entre eux, puisque tel quel, c'est ça qui fait, par exemple, surgir des tensions dans notre propre organisation. Donc, c'est une manière de pouvoir prendre de la distance justement avec ce qu'on peut vivre dans différentes organisations collectives dans lesquelles on peut être pris, mais ça peut même être dans sa famille, dans son groupe de vie par exemple, ou avec ses proches, de comprendre à la fois les fonctionnements privilégiés de certaines personnes qui vont plutôt avoir des habitudes qui sont plutôt rattachées à certaines écoles, mais aussi les plis pris par certaines des organisations, parce que le passé, l'histoire, les fondateurs et fondatrices ont plutôt imprimé une direction, mais c'est pas pour autant que c'est figé, mais ça permet de comprendre que c'est emprunt de telle ou telle école, et c'est ça qui a marqué, et que c'est ça qui est en train de se passer. Et donc de défaire aussi soit le côté fatidique de « bon, bah, ce sera comme ça pour toujours, on peut plus rien faire », ou le côté « c'est la crise permanente et on comprend rien et on sait plus par quel bout prendre la question, quoi. »
Je suppose que c'est un peu différent pour chacun chacune, d'autant que vous disiez que ce livre il a émergé d'abord par son contenu avant d'avoir une forme éditoriale. Mais vous direz qu'il s'adresse à qui, que vous l'avez adressé à qui?
J'ai l'impression qu'il s'adresse à toutes les personnes qui se posent des questions, qui vivent des situations collectives, que ce soit dans le travail, dans leur groupe de proches, qui sont engagés dans différentes associations, milieux, syndicats, collectifs de travail, et qui ont de la curiosité, soit comme ça, soit parce qu'ils vivent des expériences qu'ils ou elles ont du mal à analyser et qui, du coup, auraient envie de creuser un peu qu'est-ce qui se joue derrière ça. Ou alors, ça peut être aussi des personnes qui ont déjà fait appel à des tiers, qui ont déjà vécu des accompagnements, des interventions, et qui, du coup, à qui ça a donné un peu le goût de la compréhension d'aller plus loin. Voilà.
Peut-être ajouter aussi que, on dit collectif, dans les collectifs dont on parle ici, il y a quand même une idée, il y a un trait commun, on s'en est rendu compte après, à toutes les personnes qu'on a été interviewées, c'est que c'est, aussi différent soit-il, c'est des collectifs qui ont des visées d'émancipation, des idéaux de transformation sociale, éventuellement d'autogestion, même s'ils peuvent être critiques par rapport à l'idée d'autogestion, mais c'est pas n'importe quel collectif qui aurait... on n'a pas de collectif qui s'assume de manière purement hiérarchique et pyramidale, sans questionner les rapports de pouvoir. C'est...
Oui, donc ça s'adresse quand même à des gens qui se posent un petit peu ces questions-là. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup, ce livre. Alors, où est-ce qu'on le trouve?
Alors, on peut l'acheter sur le site de l'éditeur, Champ Social. On peut l'acheter en le commandant dans n'importe quelle librairie fixe ou itinérante, comme il existe par ici et qui peut du coup passer commande. Il est référencé et donc c'est relativement simple de se le procurer.
Et vous, on vous retrouve où?
Alors moi, je vais parler pour moi. À Pivoine, par exemple. À l'intérieur du livre, en fait, il y a nos contacts. Des quatre auteurs et autrices, justement pour pouvoir nous contacter, que ce soit pour des questions qui concernent l'ouvrage, que ce soit pour partager des expériences aussi qui viendraient alimenter ou au contraire, développer d'autres aspects ou venir un peu nous confronter sur ce qui ne serait pas dans l'ouvrage. Et aussi, on est tout à fait motivés et partantes et partants pour pouvoir venir présenter ce livre dans des occasions, dans des librairies, enfin, organiser des temps d'échange avec des personnes sur ce livre et notamment son contenu et ce qu'on a appris, ça nous intéresse bien. Donc, il y a nos contacts à l'intérieur et donc, c'est tout à fait possible de prendre contact avec nous, au contraire.
Est-ce que vous voulez laisser un contact, justement, s'il y a des auditeurs et des auditrices qui ont un tiers-lieu, un théâtre, un endroit où on peut faire parler des gens de livres?
Bon, alors pour Ayala, c'est évident, il y a l'association Pivoine. Mm-hmm. Et moi, je peux laisser mon adresse email qui est archibald.peters@infini.fr.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus présenter ce livre. On peut redire son titre, l'éditeur.
Alors, le livre s'appelle « Comment faire collectif ?» sous-titré « Une enquête du réseau des socianalystes » présenté par Magali Arnoux, Ayala Elamberger, Christiane Gillon et Archibald Peters. Et donc, l'éditeur, c'est Champ Social.
Merci beaucoup et puis bonne journée.
Merci.
Merci.